Bienvenue au Festival international de jazz de Montréal. Musique du monde. Laurence Alloire. Marc Fichet. Peggy Mfa Traoré. Musique du monde. Sur RFI.
Musique du Monde est à Montréal pour la 40e édition du Festival international de jazz de Montréal qui a démarré le 26 juin et qui se termine le 6 juillet avec un grand concert de Pink Martini histoire de faire sauter les dernières lueurs de vie dans les yeux et les oreilles des festivaliers. Nos invités aujourd'hui sont David Hinz, le chanteur du groupe légendaire de reggae Steel Pulse, Cécile Dokingé, c'est le blues de Montréal, né à New York et d'origine camerounaise, et la discothèque préférée d'André Ménard, l'un des cofondateurs du festival, qui nous parlera de son plus beau voyage, 40 ans de musique en quatre titres. Ça va pas être facile. Bonsoir André.
Bonsoir.
Superstition, c'est un titre de Stevie Wonder que vous avez choisi, André Ménard. Pourquoi?
Parce que bon, Stevie Wonder, il y a 10 ans, avait inauguré la place des festivals à Montréal.
2009.
Et aussi le 30e festival. Et ça a été une soirée magnifique, beaucoup d'imprévus, parce que ça suivait de peu la mort de Michael Jackson. Alors, Stevie avait rendu des hommages assez appuyés à Michael Jackson toute la soirée et tout. Mais c'était une soirée de rêve, quoi.
André, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de monter un festival? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'inviter des artistes ici à Montréal?
Alain Simard, qui est mon associé, et moi-même produisions beaucoup d'artistes de jazz et de blues dans les années 70. Et Alain avait cette idée depuis sa jeunesse en 1969 de créer un festival à Montréal. Évidemment que, bon... un peu à l'essor de Woodstock, etc. Ici, bon, la musique rock était plutôt contrôlée par des gens qui possédaient l'aréna des Canadiens de Montréal. Donc, on produisait plutôt des musiques de jazz et de blues. On est devenu très fanatique de cette musique. Et Alain a tranquillement fait cheminer ce projet dans sa tête, chez des instances et tout. On n'avait pas d'appui du tout la première année. Alors, pas de sponsor, pas d'argent public. Il a fallu trouver un moyen. Et c'est avec la télévision Télé-Québec qu'on a pu faire des captations et comme ça avoir un revenu autre que le box-office. Parce qu'un festival ne vit pas que par son box-office.
Vous vous souvenez du premier concert au premier festival de jazz international de Montréal?
Tout à fait, c'était Ray Charles. À l'île Sainte-Hélène, en plein milieu du fleuve, il ventait beaucoup et Ray Charles ne voulait pas qu'on mette de micro dans le piano. Vous imaginez un peu. Donc oui, je me rappelle très bien cette soirée.
Et les premières émotions musicales chez vous, vous le dites dans le préambule que vous avez signé dans le programme cette année, c'est d'abord la maman qui chante des chansons pour faire rire ou pour endormir. Bien. Et puis aussi il y a la télévision, alors télévision que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Vous parlez du Ed Sullivan Show qui a évidemment fait connaître de nombreuses vedettes qui le sont devenues, qui l'étaient déjà. Vous parlez de Frank Sinatra, d'Elvis Presley, de Tony Bennett qui est venu ici, de Bing Crosby. Vous n'oubliez pas aussi les Anglais. C'est-à-dire, c'est le moment où les Beatles et les Rolling Stones arrivent par ce qu'on appelle la vague anglaise, quoi.
Mon Dieu, j'avais 10 ans quand les Beatles ont débarqué. Et évidemment, ça a été comme un électrochoc pour tout le monde. Et les Rolling Stones, et les Animals, etc. C'était une époque où, bon, il y avait des révolutions concurrentes un peu partout, mais la musique était très, très devant tout ce qui se passait dans les années 60. Donc, pour vous dire vrai, je retrancherais bien 40 ans sur mon âge, mais pas sur la période que j'ai vécue. Parce que ça, vraiment, c'était fantastique. Et le Big Bang culturel du Québec, ça a été la présence de l'Expo 67.
Je vous ai compris! patrie.
À l'occasion de la visite du général de Gaulle, par exemple. Et il y a eu plein d'autres.
Il n'est jamais allé à Ottawa, qui est resté à Montréal,
oui,
finalement.
Hein. Il avait trop aimé Montréal.
Le Québec enfin. Libre, de mémoire.
Oui, tout à fait, oui. Donc, à cette époque-là, il y avait toute une effervescence culturelle et tout. Et autour des Jeux Olympiques aussi, en 76, 2 ans plus tard, il y avait un grand programme culturel. Mais il n'y avait pas d'événement d'été à Montréal, quand en 80 on a commencé le festival de jazz. Même pour preuve, le grand centre culturel qui est la Place des Arts, où là où la majorité de nos concerts en salle sont présentés, était fermé tout l'été. Du 1er juin jusqu'à la fête du travail qui ici, au tout début septembre, il n'y avait pas de concert, il n'y avait rien. Donc, on est parti de feuilles blanches dans notre tête, mais aussi d'un espace complètement libre. Et il s'est inventé, dans la foulée du festival de jazz, une saison d'été qui, à Montréal maintenant, est une référence mondiale. Ça me gonfle le cœur d'orgueil et de fierté.
Mais vous êtes le plus grand festival de jazz au monde.
Oui, ben
je
oui.
sais bien qu'à Montreux, mais qui s'est beaucoup élargi. Je sais bien qu'à Newport, aux États-Unis, vous êtes le seul, là où vous êtes placé géographiquement, à ouvrir vos portes à la vieille Europe, qui a très oui. chaud en ce moment. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier dont vous pouvez retirer une certaine fierté.
Évidemment que Montréal est un peu à la croisée des chemins entre l'Europe et l'Amérique. Pour nous, on ne voulait pas faire un festival totalement américano-centrique. On sait que les Américains sont très fiers de ce... réclamer de l'invention du jazz, et c'est vrai, mais le jazz, une musique qui a beaucoup voyagé et qui revient dans toutes sortes d'échos. Et pour nous, c'est important aussi de faire venir des musiciens d'Europe, d'Asie, etc., pas seulement des musiciens américains. Évidemment que les grandes références sont toujours américaines, mais il y a beaucoup de musique intéressante qui vient de partout.
André Ménard, il y a une autre célébrité à Montréal en dehors de vous, il s'appelle Leonard Cohen.
So very kind of you to come to this.
Leonard Cohen, encore un choix d'André Ménard. Leonard Cohen qui est décédé, qui est parti en 2016. Lui aussi, il avait fait une belle prestation, c'est quoi?
En 2008.
2008.
À l'occasion de son retour sur scène après 16 ans d'absence, il avait choisi pour son passage à Montréal de venir au Festival de jazz pour 3 soirées extraordinaires à la Place des Arts. C'est vraiment un souvenir impérissable. C'est un homme tellement gentil et drôle en plus. Il avait un humour extraordinaire.
Très mélancolique aussi.
De l'avoir côtoyé et d'être devenu un petit peu son ami. Pour la petite histoire, je peux vous dire qu'il a reçu un prix du Québec dans la culture. Et pour le discours d'acceptation, il parlait quand même assez bien français, mais il n'était pas à l'aise de faire quelque chose d'officiel comme ça. Il m'a demandé d'écrire le texte pour lui. Alors j'étais devenu pour une journée le ghostwriter, l'écrivain fantôme de Leonard Cohen. C'est une tournure dans ma vie que je n'attendais pas.
Quand on vient à Montréal, cette population qui vit entre le français et l'anglais, je me demande si ça avait déteint aussi sur les musiciens. Je pense par exemple à quelqu'un comme Leonard Cohen. Est-ce que dans sa vie professionnelle, il a croisé des Gilles Vigneault ou d'un côté on avait les francophones et de l'autre côté les anglophones?
Il a croisé la bohème montréalaise. Gilles Vigneault en faisait pas vraiment partie. Mais par contre, le sculpteur Armand Vaillancourt, donc il connaissait beaucoup de... Et aussi certains chanteurs rock. Il connaissait Michel Pagliaro, qui est un ami de Jacques Higelin, entre autres. C'était quelqu'un qui connaissait quand même très bien la scène montréalaise. Et je me rappelle que quand je suis allé au premier concert qu'il a donné au Québec pendant cette tournée, c'était très loin d'ici, à Saguenay. J'étais avec Mouf, qui est l'ex-muse de Robert Charlebois.
Je reviendrai à Montréal.
Et qui a écrit le titre Ordinaire pour Robert Charlebois. Et quand je lui ai présenté Mouf, il était avec les artistes, mais c'est eux qui font l'œuvre, c'est eux qui livrent la marchandise, si on veut continuer les métaphores un peu bizarres. Dans mon cas, on peut susciter des choses, mais c'est pas nous qui les créons. Ça, c'est sûr. Accompagner les artistes, c'est fantastique aussi.
Là, vous allez faire votre dernière saison au Festival de Jazz pour cette 40e édition. Est-ce que vous pensez que vous vous êtes vraiment fait des amis dans ce milieu? Vous représentez quelqu'un, vous avez une position sociale, le Festival de Jazz. Est-ce que vous aurez autant de coups de fil quand ce festival sera terminé? Est-ce que vous serez autant sollicité? Comment vous la voyez la suite?
Ben, je sais que pour moi, l'amitié est une appellation très, très contrôlée. Surtout depuis que ça a été abusé si follement par Facebook. Donc, j'ai 4 ou 5 amis proches. Des gens dans la musique, des amis, bon, il y en a certains avec qui j'ai développé une bonne relation et tout, mais je ne me qualifierais pas d'ami intime d'aucun artiste, je crois pas. Par contre, il y en a avec qui j'ai une solide relation et beaucoup de respect habituel, etc. On va se parler assez souvent. Mais l'amitié, c'est un truc qui est assez profond pour moi. Je veux pas jouer au mec profond, mais je vous dis que c'est pas... Non, je ne dirais pas que dans le métier, j'ai beaucoup d'amis. Évidemment que dans les gens avec qui j'ai travaillé, quand même, c'est pas 40 ans, c'est plus que ça. Spectra, ça existe depuis 45 ans. Il y a des gens qui nous ont consacré le meilleur de toute leur vie adulte, avec qui on a travaillé pendant 25-30 ans. Ça, je peux dire que certains de ceux-là sont mes amis. Parfaitement. Les assistantes qui m'ont supporté, comme je dis dans le texte, et c'est pas un anglicisme parce qu'elles m'ont supporté. Des fois, je pouvais être un peu imprévisible, c'est ça.
Voilà.
Mais non, là, oui, il y a des amitiés, c'est sûr. Chez les artistes, c'est peut-être un peu aussi par modestie de ma part. Ça m'intimide un peu, premièrement. Mais si je devais en nommer un que j'ai beaucoup admiré et qui nous a beaucoup retourné, Alain Simard et moi-même, c'est Dave Brouwer. Il était un homme d'une gentillesse proverbiale qui envoyait sa carte de Noël à chaque année, etc. Et lui avait une invitation ouverte pour le festival. Il devait nous avertir 2 ou 3 mois avant le festival s'il voulait venir, et il est venu aussi souvent qu'il voulait. Avec lui, il y avait vraiment un respect et un lien très fort. Je suis allé à sa funéraille, c'est pour vous dire.
I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time, hear me sigh, I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage in Montreal? We could share the world. We'll pardon my much. Cause I've got a crush, my baby, on you. Yes, I've got a crush, my baby, on you. And you,
of you in the front too, all in the middle too, all in the back too, upstairs too. People, people who need people, are the luckiest people in the world. And I've got you, 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 you. I've got all of you. I'm so lucky. And as they would sing on Soul Train,
Ella Fitzgerald, Montréal, 1983, salle Wilfrid Pelletier.
Elle était extraordinaire. Il y a des clichés, des fois, qui font dire « Ah, cette personne chante comme un oiseau ». Dans son cas, elle, la facilité avec laquelle elle semblait faire son art, quoi, il y avait peut-être une technique impeccable, mais la technique était complètement occultée par sa belle personnalité et sa façon de se comporter avec le public et tout. Je me rappelle que la dernière fois, elle était quand même un peu diminuée, elle était gravement atteinte du diabète, et un an plus tard, il avait même coupé les jambes pour essayer de prolonger sa vie. Mais la dernière fois, elle avait quand même fait un très beau concert, et en sortant, il y avait plein de gens qui l'attendaient dehors. Entre elle et la limousine qui devait la ramener, il y avait peut-être 200 personnes qui voulaient la voir et la saluer, et elle a chanté a cappella, une chanson pour eux, comme ça. Alors qu'elle avait quand même ses problèmes de santé et tout, mais elle ne laissait rien paraître. Elle avait été merveilleuse. Ça, c'est une rencontre exceptionnelle. Et pourtant, je lui ai très peu parlé, mais juste d'être en sa présence, connaître son histoire, sachant qui elle était, c'était fantastique. Mais de l'entendre chanter, pur émerveillement.
Est-ce que vous croyez que le public montréalais est un super public pour ce genre de festival?
Bien, la connaissance du public a grandi en même temps que la nôtre, je pense. Alain et moi aimions beaucoup de jazz, mais quand même, on a découvert plein de trucs. On a fait découvrir aussi aux Montréalais. Je dis jamais qu'on a découvert les artistes, parce que les artistes se découvrent eux-mêmes en premier. On a un peu servi de relais avec le public, quoi, de médiation culturelle, si vous voulez. Oui, je crois que l'éducation musicale, c'est pas un mot que j'utilise souvent non plus, mais il y a eu une forme d'éducation, et les Montréalais sont devenus un public assez sophistiqué. Ils l'étaient déjà un peu, parce qu'ici, comme je disais tantôt, avec la croisée des cultures, etc., on est très informés. Quand j'étais petit, bien avant l'Internet, quand même, on écoutait la télé américaine, la télé canadienne, la télé québécoise et tout. Donc, ça a fait un creuset où on s'informait à plusieurs sources. Donc, comme je dis, ça précédait l'Internet, mais maintenant, la mentalité des Québécois, l'ouverture qu'ils peuvent afficher, et la gentillesse qui est aussi proverbiale.
Non, mais c'est vrai.
Et face à la musique, c'est la même chose. Il y a une grande ouverture et il y a une faculté d'écoute aussi. Comme hier soir pour Charlotte Cardin qui jouait un grand concert devant des dizaines de milliers de personnes, il y avait un silence absolument respectueux. Et c'était impressionnant. Je me demande toujours d'où vient cette sagesse et cette capacité d'écoute à chaque fois que je la vois s'exercer comme ça sur une très, très grande foule comme ça.
Alors pour cette 40e édition, André Ménard, et votre dernière édition, vous nous avez donc choisi quatre morceaux. Évidemment, quatre morceaux ne peuvent pas résumer tout ce que vous avez fait pour ce festival. On a démarré avec Stevie Wonder, on enchaîne avec Leonard Cohen, ici Ella Fitzgerald. Vous disiez que les artistes, vous ne les avez pas découverts, ils se découvrent tout seuls. Il y a quand même peut-être quelques chanteurs ou chanteuses de jazz qui doivent un petit peu quand même au Festival de Montréal.
Oui, ben,
Diana Krall.
Par exemple, l'exemple de Diana Krall, oui. Mais vous savez, Diana Krall, elle avait déjà fait 3 disques, étrangement avec un label de Montréal, qui ne m'avait jamais envoyé ses disques. Elle était basée à Vancouver. C'est quand sa nouvelle managère était à New York, m'a appelé en 1995, que j'ai connu son existence, et je l'ai rencontrée à New York. On était allé voir des concerts d'adieu de Lena Horne. En plein milieu du concert, Lena Horne, qui avait à sa disposition le groupe de Terrence Blanchard, le quintet, et le big band de Count Basie, pour une chanson, elle a pris que le pianiste. Et elle a fait « Yesterday When I Was Young », la chanson de Charles Aznavour. Et je me suis tourné
hier
sur...
Encore.
C'était très émouvant, c'était très fort. Et c'était très symbolique, parce qu'elle avait 77 ans, elle se retirait et tout. Et je me suis retourné sur Diana Krall pour voir comment elle trouvait ça. Et elle pleurait comme une madeleine. Et là, je me suis dit tout de suite, cette fille a une fibre, a une sensibilité. Elle était un peu modeste, un peu gênée, un petit peu maladroite à la limite. Mais j'avais vu, mon Dieu, mais c'est une personne qui est extrêmement sensible. Ça doit être une grande artiste. On s'est employé tout de suite à la lancer à Montréal avec 10 soirées dans un club, plus ouvrir le grand concert d'ouverture avec... elle avait joué en première partie de Oscar Peterson. Et après ça, sa carrière a décollé. Donc, elle dit toujours, partout où elle passe, que c'est à Montréal que tout s'est passé pour elle. C'est très flatteur, mais comme je vous dis, elle avait quand même déjà un grand bout de chemin de fait. Mais avec nous, bon, on a réussi à peut-être servir d'accélérateur. Quoi.
Parce qu'au Festival de jazz de Montréal, ça se met dans un CV d'artiste.
Oui, c'est devenu une référence. Ouais. C'est très flatteur aussi. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même travailler fort d'aller année après année. Il n'y a pas vraiment d'acquis là-dedans. Les agents d'artistes, évidemment que... Comme le live a gagné beaucoup d'importance par rapport à la carrière sur disque, parce que le disque, c'est devenu compliqué, ils veulent tous enregistrer encore des titres, des chansons, mais se faire payer pour ça, c'est de plus en plus difficile. Donc, sur le live, il y a une pression additionnelle, il y a beaucoup de compétition. L'Europe ne nous fait pas de cadeaux en été avec tous les festivals qu'il y a. Donc, pour pouvoir faire une programmation aussi anthologique que celle du Festival de Montréal à chaque année, le travail est immense. Laurent Saulnier, Morin Xibéry, qui est un natif de Marciac d'ailleurs, qui est aussi...
très beau festival de jazz.
Qui est le principal programmateur au festival de jazz, sinon que Laurent, qui est son patron, il en fait aussi beaucoup.
Morin sera là demain, oui, à votre place.
Donc, c'est des gens extraordinairement amoureux de la musique, et c'est ça que j'aime, c'est qu'au début, Alain et moi, on était des fans, on était des fans de musique, quoi. Et on a organisé un festival pour les fans de musique. Donc, et autant le succès économique du festival a été fabuleux pour le développement de Montréal... On a carrément révélé le quartier des spectacles et tous les aménagements ont été faits après nos demandes. Ça, c'est très flatteur. Mais je me suis jamais vu comme un développeur dans la vie. Et quand je me rase le matin, comme disait votre ex-président, ce que je voyais dans le miroir, c'est un fanat de musique. C'est pas quelqu'un qui fait du développement touristique ou immobilier ou rien de ça. Et c'est resté ça. La magie d'aller au concert ne m'a jamais quitté. Même si je sais tout ce qui se passe derrière dans la cuisine maintenant, évidemment, quand ça se passe, c'est comme... Quand j'étais petit, le théâtre de marionnettes, je me fermais un peu les yeux pour pas voir les cordes. Et c'est pareil. Je vais au concert et je suis complètement détaché de tout le contexte professionnel que j'ai vécu. Ça reste des instants magiques et je veux encore en vivre pour très longtemps. Ça n'a rien à voir avec le travail. J'ai fait ce travail parce que j'aimais ça. J'aimais ce milieu, j'aimais ce qu'on faisait avec ça. Mais finalement, je retourne dans le public et je suis très content.
Oui, c'est ce que vous allez faire. Vous allez être un touriste chez vous. Vous n'avez toujours pas en tête d'écrire un livre?
Ça serait difficile de ne pas l'avoir en tête parce qu'on m'en parle presque tous les jours.
Ben, c'est ça.
Le problème, c'est que c'est beaucoup de travail. L'écriture, je peux en faire comme j'écris un mot dans le programme, mais de là à livrer un bouquin. Donc, je me ferais aider. J'ai un ami journaliste que j'ai connu à l'âge de 5 ans, qui est un ordinateur vivant qui se rappelle de tout. Et je crois bien que je vais finir par le faire d'ici quelques années.
André Ménard, on va se quitter avec le Time After Time de Cyndi Lauper, mais dans la version Miles Davis. Je vous laisse conclure.
Ah, c'était le Miles des années 80, évidemment. Bon, il y a des synthés, etc. Mais le lyrisme de la trompette de Miles Davis, un truc qui est inégalable. Et l'aura qu'avait Miles Davis, la première fois que je l'ai vu en 82 de près, j'avais conçu l'expression « un aura de béton ». Concrete aura, parce que c'était formidable de voir, mais on avait l'impression qu'on ne pouvait pas approcher. Chose qui s'est avérée fausse. À travers les années, j'ai eu des contacts formidables avec Miles Davis. Il était drôle, il était gentil, il était poli. Contrairement à certaines légendes, ça a toujours été des moments magiques avec Miles Davis et les concerts ont tous été à l'égal du très grand personnage qu'il était.
Au revoir, André Ménard, et merci pour tout.
Au revoir, à bientôt.
À bientôt. Thank you. Davis sur RFI dans les musiques du monde à Montréal avec le titre Time After Time, un titre de Cyndi Lauper. C'est extrait de l'album You're Under Arrest qui était sorti en 85. On va quitter le jazz fusion de Miles Davis pour le blues de Cécile Doukingé. Cécile est née à New York de parents camerounais. Elle vit à Montréal. La guitariste, auteure-compositrice a déjà sorti 4 albums. Sa voix suave se met au service de ses combats privés et civilisés.
Bienvenue au Festival international de jazz de Montréal.
Le titre qu'on vient d'écouter s'appelle Sweet Talking Devil. C'est interprété par une artiste qui vit ici à Montréal, qui s'appelle Cécile Doukingé. Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Comment s'est passé votre concert à cette 40e édition?
C'était vraiment sympa. Ça fait du bien de jouer à la maison parce que les dernières années, je joue à peine à Montréal, à peine au Québec. D'avoir un beau public à la maison, puis de retrouver aussi le trio avec lequel j'ai beaucoup tourné, c'était un véritable plaisir, puis vraiment une belle ambiance.
Cécile Doukingé, vous êtes née à New York,
oui.
Vous avez vécu en France, vous êtes d'origine camerounaise, et maintenant vous êtes installée à Montréal. Qu'est-ce que Montréal vous a fait pour que vous ayez envie d'y passer votre vie?
C'était loin de la famille, mais ce qui m'a attiré, c'était le côté bilingue, en fait. Le mélange de culture, de langue. C'est l'une des villes nord-américaines où on retrouve quand même un côté européen, tout en gardant une forte identité nord-américaine. Et je voulais pouvoir continuer à vivre en français, en fait. Puis c'est très multiculturel aussi comme ville, et une bonne taille. Parce que c'est une petite grande ville en fait. Donc ça fait du bien, on respire.
L'Afrique n'est pas une inconnue à Montréal. Il y a un vieux festival qui existe depuis plus de 40
Nuit
ans
d'Afrique.
Ouais, Nuit d'Afrique avec Lamine Touré et son club Le Balatou,
ouais.
Qui a ouvert dans les années 80. Est-ce que quand vous êtes arrivé à Montréal, vous vous êtes rapproché de cette scène-là?
On a joué à plusieurs reprises pour le festival et au Balatou. J'étais assez présente quand même sur la scène world montréalaise. C'est sûr que mon projet solo est moins métissé de ce côté-là. Donc ça virait plus sur la scène blues et roots une fois que la carrière solo a décollé.
Quand vous dites roots, vous pensez à quelles racines?
Roots, pour moi, c'est toutes les racines en fait. Mais ici, je pense que ça représente beaucoup plus ce qu'on appelle la musique américaine. Donc que ce soit blues, que ce soit folk, que ce soit toutes les traditions modernes. I got shelter, even got a bed. Got running water and I never go unfed. That's more than most, so who the hell am I to complain? I live in a country, stable and at peace, where I can voice all my griefs and beliefs. How many people are denied their right to freedom of speech? I won't take for granted the good things in life that lessen my burden and help shine my light. Today I'm simply happy to be alive. Got a good life.
Cécile Dukingé, on vient d'écouter le titre Thankful, qui est plus
chill.
Quand je vous entends chanter, quand je vous entends parler, je sens bien Cécile Dukingé, la Montréalaise, voire l'américaine. Est-ce qu'il existe Cécile, la Camerounaise, ou elle n'est jamais née?
Elle a toujours existé. Si je devais me disséquer, en fait, je dirais que le Cameroun est dans mon sang. New York est dans la peau. La France est dans la tête, parce que j'ai été éduqué en français. Mais le sang, c'est quand même ce qui fait pomper le cœur. Donc, même si ça fait 30 ans que je ne suis pas rentré au pays, et même si je n'ai pas grandi au pays, le Cameroun fait quand même partie de ma réalité.
Est-ce que vos parents écoutaient la musique camerounaise quand vous étiez à New York?
Oui, énormément. Donc, tout ce qui était Makossa, Bikutsi, tout ça, ça faisait partie de l'ambiance. Ils ont vraiment fait l'effort de nous ramener au pays le plus possible quand on était petit. Ça me ferait grand plaisir de rentrer au pays. C'est sûr que, bon, en tant que femme homosexuelle, c'est un peu problématique parce qu'on a quand même une loi homophobe par rapport à ça, avec une peine de prison qui vient avec. C'est sûr que ça rend les choses un peu plus chaudes pour rentrer.
Dans vos textes, il y a une espèce de tension. Est-ce que ça transpire, par exemple, sur Riot and Revolution, qu'on a écouté, sur le Sweet Talking Devil, sur le Thankful? Est-ce que vous arrivez à délivrer, à sortir tout ça, ou ça reste compliqué? Est-ce que l'anglais n'est pas aussi une manière de se protéger?
Je pense pas qu'il soit une question de me protéger, en fait. J'essaye aussi de trouver un équilibre entre critique et espoir. Parce que c'est facile de critiquer puis de dire que le monde va mal. Mais je pense qu'il est aussi important de reconnaître qu'il y a quand même de grands efforts et de grands progrès qui ont été réalisés depuis des décennies, des siècles, des whatever, que ce soit au niveau de la condition féminine, que ce soit la condition des blacks partout au monde, des minorités religieuses, ethniques, whatever. J'essaye de quand même avoir une lueur d'espoir, même quand je décris les choses qui vont mal dans la société.
Cécile, vous savez que cette émission, c'est une émission d'RFI, et RFI est aussi en Afrique, donc oui, aussi au Cameroun. Vous avez un message à faire passer? On va vous entendre de Douala à Yaoundé, et même ailleurs.
J'espère qu'on va quand même réussir à... Puis ça, c'est pour tout le monde, autant que soit l'Afrique, que l'Europe, que partout au monde, de trouver moyen d'arrêter les conneries au niveau de la haine et de la division vers lesquelles on est manipulé par nos dirigeants, que soient les guerres ethniques, que soient les guerres quant à la langue, quant à la religion, tout ça, c'est des faux problèmes qu'on nous crée pour nous manipuler et pour nous garder opprimés. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir se concentrer beaucoup plus sur la tolérance et sur l'inclusion, plutôt que de continuer à se battre, à se tuer pour des affaires qui vraiment n'ont aucun sens.
Changement de plateau à Montréal, Cécile Dukingé cède sa place à Steel Pulse. Le groupe est né à Londres en 78, époque où le reggae battait son plein dans la capitale londonienne. Steel Pulse revient après 15 ans d'absence discographique avec un nouvel album, Mass Manipulation. Steel Pulse a régalé le public montréalais pendant la 40e édition du festival de jazz en montrant que 30 ans de carrière, c'est une paille pour la formation de David Innes, toujours en alerte, le verbe plus aiguisé que jamais au service du reggae roots. Montréal, 28 juin 2019, comme si vous y étiez.
Bonsoir Montréal, history no more a mystery. Respect and authority. Climb ye the heights of humanity. Now
David Innes de Steel Pulse est notre dernier invité aujourd'hui pour cette spéciale Festival International de Jazz de Montréal. Steel Pulse, c'est l'Angleterre, c'est les années 70. David Innes, ça faisait 15 ans que Steel Pulse n'avait pas sorti d'album. Qu'est-ce qui s'est passé?
All kinds of things happened, I mean.
Il y a plein de choses qui se sont passées en 15 ans.
We never had a studio of our own to work out of.
En fait, on n'a jamais eu notre propre studio pour faire nos disques.
So that slowed things down quite a bit.
Alors, c'est un peu ralenti les choses.
No major record labels to work with where they finance.
Alors, on n'avait pas non plus de major, de grandes compagnies de disques qui nous finançaient.
So we had to finance things ourselves.
Donc, on devait faire les choses nous-mêmes.
Which meant excessive touring to find that finance to.
Et pour financer tout ça, il faut faire beaucoup de tournées, beaucoup de concerts. Eh oui, c'est là où on a de l'argent.
Immediate cash.
Immediate cash. On a de l'argent tout de suite, c'est tout frais.
Not having a studio to work at immediately.
Et le fait de ne pas avoir de studio à nous, ça nous a obligés à enregistrer cet album dans 7 pays différents.
And several towns in the countries. Example, we record in Birmingham,
Los Angeles,
New Orleans,
la Nouvelle-Orléans,
San Diego, New York,
13 États-Unis,
Martinique,
en Martinique un peu moins.
Because one or two tracks were actually laid in Martinique.
Deux morceaux ont été faits.
Drums.
En Martinique avec les percussionnistes.
And backing vocals.
Et les chœurs aussi. David Innes, Steel Pulse n'a pas rien fait. En 15 ans, vous avez fait quelques chansons, notamment un titre sur Barack Obama.
You gotta open up those doors for President 44, a black. I paint the White House black. We're gonna paint it black. Paint it black, y'all.
J'imagine que vous êtes très heureux aujourd'hui de voir que Barack Obama a été remplacé par Donald Trump, ce qui donne encore toute une légitimité à votre travail.
I think America probably loves this guy so much. Any messages I do, I might have to make it subliminal.
Je pense que les États-Unis adorent ce mec, et si je devais passer des messages, ils seraient de toute façon subliminaux. Steel Pulse a également écrit un morceau en mémoire de Trayvon Martin, ce jeune noir abattu en 2012 pour suspicion de dangerosité par un agent de sécurité blanc, et repris aussi une chanson de Bob Dylan, The Lonesome Death of Hattie Carroll. C'est sorti en 64 et ça relate un fait divers. Une femme de ménage a été abattue dans un hôtel à Baltimore, une femme de ménage noire bien sûr, parce qu'elle avait apporté une boisson avec un petit peu de retard. Le type, lui, il avait pris 6 mois de prison et Bob Dylan était juste dégoûté par tant d'injustice.
Bob Dylan was coming home from Dr. Martin Luther King's speech.
Bob Dylan revenait du discours de Washington qui a eu lieu le 28 août 63, un discours qui a réellement marqué la lutte contre la ségrégation et le racisme.
Yeah, so 50 years went by and we covered that song.
Et donc 50 ans plus tard, nous avons repris ce titre qui malheureusement est toujours d'actualité.
Black people, arise and shine for the light has come.
And the glory of the King of Kings is now risen upon thee.
Do they think I am? Give me food from the pot bottom. Give me scrap from them table. Am I not desperate or disabled? In this land we live with dog eat dog. I said the whole of them are gone like hog. A simple thing we make we jump and bark. I grab a licious like a harbor shark. Cry blood.
C'était le titre Cry, Cry Blood, cet extrait du tout nouvel album de Steel Pulse, Mass Manipulation. David Innes est notre invité. Alors, on va parler de l'écoute. Votre groupe est né dans les années 70, à la fin des années 70. Aujourd'hui, on parle de playlist, de clés USB, de MP3. On est très, très loin du vinyle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que la génération actuelle n'a pas pu bénéficier d'une bonne qualité de son. Quand j'ai écouté du MP3 pour la première fois, j'ai cru qu'il y avait un dysfonctionnement dans l'appareil, le son était tellement dégueulasse. Et puis le reggae a ce joli petit son pointu quand on l'écoute sur du vinyle, surtout sur les lignes de basse. Je crois qu'on s'est fait avoir, le monde s'est fait avoir par cette ère du numérique et toute cette technologie en plastique, électronique, tout tourne autour du cérébral et pas autour du cœur. J'espère que le reggae va ramener le cœur et la spiritualité au cœur même de la musique. En fait, le seul qui s'en est bien sorti, c'est Bob Marley. Oui, et l'une des raisons est que les disques se vendent moins bien qu'avant. À l'époque de Marley, il fallait vendre 300 000 singles pour être numéro 1 en Angleterre. Aujourd'hui, t'en vends 15 000 et c'est bon.
Now, I mean, it's been quite a while where you can get a number one hit in England for under 50,000 copies.
Et puis le téléchargement a rapporté moins que prévu. De toute manière, aujourd'hui, la plupart des artistes de reggae gagnent leur vie en faisant des concerts.
Yeah, and then you got the
il y a une autre raison pour la désaffection. Il y a que les artistes de reggae sont moins reconnus, moins respectés qu'avant aux États-Unis. Et puis il y a aussi une émergence de groupes de reggae joués par des blancs, une situation que nous avons déjà rencontrée en Angleterre à la fin des années 70 et au début des années 80.
So the white reggae,
le reggae qui rapporte un peu aujourd'hui vient majoritairement de Californie. Mais ce qui est bien, c'est que nombre de ces musiciens blancs de reggae ont leur propre émission de radio-télévision. Ils ont toujours du respect pour les musiciens que nous sommes. Et c'est pour ça qu'on est parti aux États-Unis, parce que la musique noire ne se vendait plus en Angleterre. David Innes, ça fait maintenant plus de 30 ans que vous faites du reggae roots. Qu'est-ce que vous pensez des dérivés du reggae, du dancehall, toutes ces nouvelles technologies? Ça a quand même beaucoup changé. Évidemment que ça ne sonne pas comme il y a 30 ans, mais ce n'est pas utile. Il faut qu'on grandisse. C'est comme le monde de l'art. À un moment donné, nous écoutons, nous assistons à l'avènement de l'impressionnisme avec Claude Monet, Renoir. Et puis on est passé à Picasso, Matisse. Et puis aujourd'hui, nous avons le dessinateur Roy Lichtenstein, Andy Warhol. Nous sommes passés de l'impressionnisme au pop art. Et nous devons apporter une certaine fraîcheur à notre reggae pour que les jeunes s'y intéressent. Il faut trouver le juste milieu. David Innes, avec vos 30 ans d'expérience, est-ce que vous pensez que les jeunes ont besoin d'entendre ce que les anciens ont à leur dire? Oui, c'est important. Qu'est-ce que vous croyez que l'album Mass Manipulation raconte? Le monde entier a été drogué. Le monde entier s'est fait avoir en croyant que le système défendrait ses intérêts, nos intérêts. Étonnant, non? Temple, Cecil Dukinge, Leonard Cohen, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, André Ménard ont enjolivé notre spécial festival de jazz à Montréal. La suite demain, même heure, même punition. Punition? Non.
Thank you very much, Air Montreal, for your support over the years.
Cecil Dukinge, Leonard Cohen, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, André Ménard ont enjolivé notre spécial festival de jazz à Montréal. La suite demain, même heure, même punition. Punition? Non.
Thank you very much, Air Montreal, for your support over the years.
Mm.